Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
RFI Matin, ça commence avec le journal de Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
À la une, la libération pour Donald Trump, l'appréhension pour les autres.
L'un des plus beaux jours de l'histoire des États-Unis pour le président américain. Une déclaration d'indépendance économique selon Donald Trump, une déclaration de guerre commerciale pour le reste du monde. Donald Trump qui a sorti son plus beau tableau pour dégainer ses tarifs douaniers. Au cas par cas, la Chine est particulièrement visée. L'Europe aussi, notamment l'Irlande, vous l'entendrez.
En Haïti, les habitants sont dans la rue, épuisés par les violences des gangs.
Des gangs qui contrôlent 85% de la capitale Port-au-Prince, selon l'ONU. Les habitants s'organisent et se sentent totalement délaissés par les autorités du pays. Au Sénégal, les députés demandent justice pour les victimes des violences politiques des dernières années et votent la révision d'une loi d'amnistie adoptée à la fin du mandat de l'ex-président Macky Sall. Nous nous demanderons ensuite que sont devenus les mineurs étrangers de la Gaîté Lyrique et violemment expulsés il y a 15 jours de ce théâtre parisien, ce qui avait choqué l'opinion. Enfin, nous terminerons en chanson avec les Ghanéens de Saint-Trophy, 8 musiciens d'exception de retour avec Making Moves, leur nouvel album, extrait choisi en fin de journal.
En fanfare, Donald Trump a vu les choses en grand pour son plan de guerre commerciale.
Un plan à grande échelle détaillé sur un immense tableau, tout le monde en prend pour son grade et devra passer à la caisse pour exporter aux États-Unis. Des nouveaux droits de douane réciproques massifs et variables selon les pays. Et on retrouve à Washington notre correspondant Guillaume Nodin. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Donald Trump qui parle de ce mercredi 2 avril comme l'un des jours les plus importants de toute l'histoire des États-Unis.
Oui, le président américain fait rarement dans la demi-mesure pour commenter ses décisions. Cette fois, il parle d'une véritable déclaration d'indépendance économique. Avec ses annonces, il entend mettre fin à des décennies durant lesquelles il estime que de nombreux pays, alliés ou pas, ont profité de la générosité de l'Amérique. Il annonce donc des droits de douane supplémentaires d'un minimum de 10% sur les importations en provenance de toute une liste de pays ou groupes de pays, ou même étonnamment de territoires faisant partie d'autres pays comme la Réunion ou la Martinique, qui sont des départements français. Mais la facture peut aussi monter en fonction, dit Donald Trump, de la manière dont ces pays surtaxent les importations en provenance des États-Unis. Mais le mode de calcul n'est pas très clair. La Chine se voit ainsi imposer des droits de douane de 34%, l'Inde 26%, l'Union européenne 20%, la Côte d'Ivoire 21% et le Lesotho 50%. L'administration déconseille aux intéressés de répliquer et les invite plutôt à baisser leurs propres barrières douanières. Si guerre commerciale il devait y avoir, ce sont donc les États-Unis qui auront tiré les premiers. Mais pas contre tout le monde. On note l'absence du Mexique et du Canada, menacés par ailleurs depuis des semaines. Pas de traces non plus de la Russie, alors qu'on notera que l'Ukraine écope du tarif minimum de 10%.
Merci Guillaume Nodin, correspondant de RFI à Washington. Ces droits de douane qui commenceront à entrer en vigueur ce samedi à 14h01, temps universel très précisément, alors que ce jeudi, d'autres taxes sur les voitures importées et les pièces détachées seront appliquées. Ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, assure que les Européens sont prêts à répondre à ces taxes. Le président français Emmanuel Macron annonce lui réunir aujourd'hui les représentants des filières impactées à l'Élysée, alors que la Chine exhorte les États-Unis à annuler immédiatement ces nouveaux droits de douane, des barrières douanières que le Japon juge extrêmement regrettables. Les bourses asiatiques, par ailleurs, qui ont complètement dévissé. On y revient juste après ce journal pour la Une en Asie avec Nicolas Roca.
En Europe, un pays s'inquiète particulièrement. Il s'agit de l'Irlande.
L'île d'Emeraude, historiquement et économiquement très liée aux États-Unis. De nombreuses multinationales américaines ont d'ailleurs établi domicile à Dublin, attirées par une fiscalité avantageuse. L'Irlande, devenue ces dernières années un véritable paradis fiscal, notamment pour les géants pharmaceutiques américains. Mais cette attractivité va peut-être aujourd'hui se payer très cher. L'Irlande, soumise au régime européen de 20% de taxes, des droits de douane qui n'ont pas manqué de faire réagir à Dublin, Clémence Pénard.
Le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, a rapidement exprimé ses profonds regrets, déplorant une décision injustifiée. Et pour cause, l'Irlande dépend fortement du commerce et des investissements américains. Son modèle économique repose sur l'implantation des géants américains. Quelques jours plus tôt, le gouvernement irlandais tirait déjà la sonnette d'alarme et parlait de 80 000 emplois menacés dans le pays. Pour Simon Harris, ministre des Affaires étrangères, ces tarifs représentent un défi majeur pour les exportateurs irlandais, tout secteur confondu. En première ligne, il y a bien sûr l'agroalimentaire avec des produits phares comme le beurre Kerrygold et le whisky irlandais. Pour l'instant, l'industrie pharmaceutique, elle, est épargnée. Pourtant, 44 milliards d'euros de produits pharma ont été vendus aux Américains l'année dernière. Mais c'est un répit de courte durée. Des droits de douane spécifiques sont attendus dans les semaines à venir. Micheál Martin plaide ainsi pour une réponse mesurée de la part de l'Union européenne. L'Irlande joue très gros. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
La guerre commerciale mondiale de Donald Trump, on y revient bien sûr tout au long de la matinée sur RFI, notamment dans un peu plus d'une heure. On parlera du Brésil, l'un des rares gagnants, a priori. Ce sera dans Aujourd'hui l'économie.
Benjamin Netanyahou veut morceler la bande de Gaza.
Notamment pour séparer les villes de Khan Younes et de Rafah en visitant Hongrie. Le Premier ministre israélien a dit dans une vidéo vouloir augmenter encore un peu plus la pression face au Hamas afin que de les forcer à rendre les otages. L'armée israélienne qui prend des territoires et frappe les terroristes, a-t-il déclaré. Israël, dont les raids aériens ont fait au moins 30 morts ce mercredi à Gaza, selon les secours locaux. Le Hamas qui ne cède pas et rejette une proposition israélienne de trêve et annonce préférer travailler sur une initiative de l'Égypte et du Qatar, prévoyant un cessez-le-feu de 50 jours et des échanges de prisonniers.
Nouveau bilan en Birmanie.
Et plus de 3000 morts après le séisme de vendredi dernier. Près de 350 personnes sont elles toujours portées disparues. La junte birmane, qui a par ailleurs annoncé un cessez-le-feu temporaire dans sa lutte contre les groupes rebelles du pays, dans le but d'accélérer les efforts de reconstruction, selon un communiqué.
En Haïti, à présent, des milliers de manifestants dans la rue contre l'insécurité.
Des habitants de Port-au-Prince, excédés par la violence des gangs, des manifestants qui ont érigé des barricades sur certaines grandes artères de la capitale. Le pays qui connaît un regain de violence depuis un mois et demi, se sentant totalement abandonné par les autorités. Les habitants s'organisent, comme nous le dit Diego Darin, expert sécurité à l'International Crisis Group, spécialiste d'Haïti.
L'ONU estime que les gangs contrôlent actuellement plus ou moins 85% de la capitale. Il n'y a que quelques quartiers qui résistent encore aux attaques qui sont lancées par les gangs et qui sont contrôlés notamment par des brigades de vigilance et par les forces de sécurité, à savoir la police nationale ou les forces armées d'Haïti ou la mission multinationale qui est sur le terrain. Ce sont surtout des brigades de vigilance constituées par des civils, des résidents de ces quartiers qui s'arment et qui défendent leur quartier contre l'invasion de gangs et qui résistent les attaques des gangs pour protester contre ce qui est perçu comme l'inaction du gouvernement face à la montée en puissance des gangs et à l'intensification des attaques sur certains quartiers.
Des propos recueillis par Anne Verdaguet cette semaine. Des gangs ont aussi attaqué le commissariat à la prison de Mirbalet, à une cinquantaine de kilomètres de Port-au-Prince, libérant au passage quelques 529 détenus. On reparle d'Haïti dans notre dossier du jour dans un peu plus de deux heures.
RFI à Dakar, 92 FM.
Il est 5h07 en temps universel, comme à Dakar, où l'Assemblée nationale sénégalaise est revenue sur une loi d'amnistie.
Une loi adoptée sous l'ex-président Macky Sall et finalement révisée hier par les députés sénégalais. Après une journée marathon de débats, le texte qui avait été voté en mars 2024, initialement pour apaiser les tensions politiques liées à l'élection présidentielle. Une période de violence, au moins 65 personnes ont été tuées lors de manifestations réprimées par les forces de l'ordre entre 2021 et 2024. Un épisode très douloureux qui a mis en lumière les profondes divisions de la société sénégalaise. RFI Dakar, Léa Lisa Festeroff.
Dans une ambiance électrique, pendant plus de 8 heures, des dizaines de députés du PASTEF se sont relayés à la tribune pour dire l'urgence de rendre justice aux trop nombreuses victimes des manifestations de l'opposition sous les 3 dernières années du régime de Macky Sall. Corriger cette loi d'amnistie afin de juger les auteurs d'assassinats, de meurtres et de tortures, c'était la meilleure option pour lutter contre l'impunité, selon le chef du groupe parlementaire du PASTEF, Aïb Dafé.
Que ça ne se reproduise plus, c'est en réalité ça qui se joue aujourd'hui. En tout cas, cette interprétation permet d'apporter la lumière sur des faits particulièrement grave, permet également de rendre justice à ces victimes parce qu'on parle de plus de 85 morts et le bilan n'est pas définitif parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête.
Des enquêtes qui vont pouvoir être ouvertes désormais, mais en face, les députés de l'opposition ont dénoncé un deux poids deux mesures car les auteurs des saccages et de pillages resteront couverts par l'amnistie. Pour le député de l'opposition, Tierno Alassane Sall, c'est une façon de protéger les militants du PASTEF et ses dirigeants.
Ce qui est inacceptable, c'est d'essayer justement au nom d'une graduation dans la douleur, de ne pas respecter la douleur et la souffrance des uns au prétexte qu'il ne s'agit pas de crimes de sang. Et qui veulent-ils couvrir ? En réalité, ils veulent couvrir celui qui a appelé les gens à manifester.
À peine la nouvelle loi adoptée, le parti de l'ancien président, l'APR, s'est fendu d'un communiqué dénonçant une loi scélérate qui incrimine les forces de défense et de sécurité. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
En France, ces larmes avaient ému l'opinion, celle d'un jeune mineur expulsé de la Gaîté Lyrique.
C'était il y a 15 jours, ce jeune migrant qui réclamait le minimum, à savoir un petit toit pour ne pas dormir dehors. C'était lors de l'expulsion de 450 personnes au théâtre de la Gaîté Lyrique. Aujourd'hui, un collectif manifeste devant le rectorat de Paris pour réclamer la scolarisation pour tous ces mineurs étrangers. Amélie Beaucourt est partie à leur recherche.
Le 18 mars dernier, à l'aube, des dizaines de CRS encerclent le centre culturel où 450 mineurs non accompagnés avaient trouvé refuge 3 mois plus tôt pour passer l'hiver. Les jeunes, comme Mamadou, se dispersent alors dans toute la région.
Certains sont partis à Pont-Marie, certains sont partis à Gare du Nord, certains sont partis à Stalingrad et certains encore sont partis à Montreuil là-bas. Comme certains ont été tabassés, gazés et maltraités, tout le monde avait peur d'être attrapé et on s'est divisé comme ça à travers de la ville, quoi.
L'alternative proposée par la préfecture, monter dans un bus en direction de Rouen. 6 sur 450 seulement ont accepté et 3 sont déjà de retour depuis.
On t'amène là-bas, on t'oblige encore à demander l'asile. Et tu es mineur, tu es dans tes procédures de mineur et tu ne peux pas faire la demande des fois ici à Paris, c'est interdit.
Le jour de l'évacuation de la Gaîté Lyrique, 25 d'entre eux interpellés ressortiront du commissariat avec une obligation de quitter le territoire. Procédure qui ne peut légalement être appliquée à un mineur. Plusieurs racontent que la police aurait sciemment modifié leur date de naissance. 200 jeunes se réuniront finalement sur les quais de Seine avant d'être expulsés à nouveau il y a 2 jours.
Amélie Beaucourt du service France de RFI.
On termine en musique, Martin, et on file au Ghana.
Où nous emmène Carmen Lunsman prendre le pouls des rues d'Accra avec le groupe Centrophy, ambassadeur du High Life ghanéen aux influences cubaines et nigérianes. 8 musiciens de retour avec 8 nouveaux titres. Ça nous donne Making Moves, nouvel album qu'a donc écouté Carmen Lunsman.
Honorer le High Life ghanéen sous toutes ses formes et fusions, c'est la mission de Centrophy depuis la création du groupe en 2018. Ces 8 musiciens originaires d'Accra, la capitale du Ghana sur la côte atlantique d'Afrique de l'Ouest, allient ingénieusement accent funk, rap et afrobeat, un genre musical né au début du XXe siècle. Sous leur impulsion, le High Life, issu de fanfares militaires, musique d'église et chants de marins, enrichi par des influences jazz et calypso, part en exploration de nouveaux horizons. Le titre Making Moves, qui donne son nom à leur album, les a propulsés au sommet des classements de musique du monde en Europe en mars dernier. S'inspirant de la vie quotidienne, Centrophy reste fidèle à l'héritage du High Life. Les chansons évoquent la difficulté de la vie dans les rues tumultueuses d'Accra, métropole de près de 5 millions d'habitants, où lancent des appels politiques à l'approche des élections au Ghana en décembre dernier. Ne faites pas de promesses que vous n'êtes pas prêt à tenir, chantent ces philosophes du High Life en langue ghanéenne et anglaise, pour transmettre leur message à travers une musique résolument rétrofuturiste et festive.
Voilà, c'est la fête, on se quitte comme on a commencé, en fanfare et sous les trompettes, attiré de circonstances pour repasser le flambeau à Marion Casanova.
Et on continuera la fête dans le choix musical. Carmen Lunsman reviendra nous parler du High Life ghanéen un peu avant 8h, temps universel. Merci Martin Guèze. 7h13 à Paris, 5h13 en temps universel, c'est le début d'RFI Matin. 3 heures d'infos avec nos invités, nos reportages et nos chroniques. On va d'abord commencer avec ces droits de douane annoncés par Donald Trump. C'était un peu après la fermeture de la bourse américaine.
C'est à mon avis l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine. C'est notre déclaration d'indépendance économique. Pendant des années, les citoyens américains qui travaillent dur ont été contraints de rester sur la touche alors que d'autres nations s'enrichissaient et devenaient puissantes, la plupart du temps à nos dépens. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prospérer.
But now it's our turn to prosper.
Donald Trump contre le reste du monde. Le président américain lance sa guerre commerciale avec des droits de douane sur toutes les importations. Certains pays sont plus touchés que d'autres, on le verra. Le reportage international ce matin en Turquie où plus de 300 étudiants restent emprisonnés. Après avoir participé à des manifestations contre le pouvoir, les jeunes sont toujours mobilisés mais craignent aussi la réponse des autorités.
Oui, nous avons tous peur, en particulier les femmes, parce que nous avons vu et entendu que la police était particulièrement dur avec les femmes. Cela me fait peur, mais cela ne m'a pas empêché de rejoindre les manifestations. Je n'aurais pas pu rester chez moi à la maison sans rien faire.
Des milliers de manifestants hier en Haïti contre l'insécurité, la violence des gangs. Les groupes armés poursuivent leur progression et intensifient leurs attaques, notamment dans la capitale. Ce sera le dossier du journal de 7h, temps universel. On parlera aussi de la guerre au Soudan avec l'invité Afrique de RFI, le chercheur Souleymane Baldo, qui nous expliquera les raisons des avancées de l'armée du général Al-Bourhan. C'est ces dernières semaines.
L'armée soudanaise, au début de la guerre, n'avait pas des troupes de soldats d'infanterie. Et depuis le mois de septembre 2024, l'armée soudanaise a pu recruter des milliers de volontaires. Et il y a aussi des volontaires islamistes, disons, étaient le fer de lance de cette armée dans cette offensive.
Entretien en longueur dans environ une demi-heure sur RFI. RFI Matin, vous avez le programme. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et on revient donc sur ces droits de douane à tout va imposés par le président américain. 10% minimum pour tout le monde, pourcentage alourdi pour certains pays. Surtout les pays asiatiques, les bourses du continent plongent d'ailleurs ce matin. La Chine est la plus touchée, 54% en tout. Les alliés de Washington non plus ne sont pas épargnés. Nicolas Rocca, bonjour.
Bonjour.
Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan ou l'Inde font partie des Dirty 15, les mauvais 15, on va le traduire comme ça. Ce sont ceux, Nicolas, qui désavantagent le plus l'économie américaine selon Trump.
Oui, il estime que la balance commerciale avec une grande partie des pays asiatiques qui exportent largement aux États-Unis leur est nettement trop favorable. La réponse du président américain, 46% de droits de douane pour le Vietnam, 49% pour le Cambodge, 36% pour la Thaïlande et pour les alliés historiques que sont le Japon, Taïwan ou la Corée du Sud, pas de traitement de faveur entre 32% et 24%.
Pourtant, ces pays ont tenté la méthode douce en essayant d'amadouer le président américain.
Et on ne peut pas vraiment dire que ça ait fonctionné. Le Vietnam, dont la croissance dépend du secteur manufacturier, a annoncé tard ce lundi avoir réduit ses droits de douane de façon préventive sur une série de marchandises américaines comme les voitures ou le bois. L'Inde et son premier ministre Narendra Modi, qui a affiché sa proximité avec Donald Trump lors de son passage à la Maison-Blanche, a utilisé la même stratégie. New Delhi a ouvert la porte à des baisses de droits de douane sur la moitié de ses importations américaines, estimées à 23 milliards de dollars. Taïwan et la Corée du Sud, deux partenaires commerciaux nettement dépendants du parapluie nucléaire américain pour assurer leur défense face à la Chine et la Corée du Nord, ont tenté d'augmenter leur production aux États-Unis. Le gigantesque conglomérat sud-coréen Hyundai a annoncé 21 milliards de dollars d'investissement et l'ouverture d'une nouvelle aciérie en Louisiane. Même stratégie, même échec pour le taïwanais TSMC, l'entreprise qui produit la plus grande partie des semi-conducteurs de pointe présente dans tous les produits électroniques de la planète, est allée plus loin en annonçant 100 milliards d'investissements aux États-Unis. Autant de cadeaux pas vraiment récompensés.
Et les conséquences sur ces économies centrées sur l'exportation risquent d'être particulièrement prononcées. En témoigne le recul des principales places boursière, Nicolas, mais pour l'économie américaine, cela signifie aussi une hausse des prix de très nombreux produits.
Oui, à commencer par les voitures. L'industrie automobile frappée de 25% de droits de douane supplémentaires. Les constructeurs sud-coréens et japonais ont des parts de marché très élevées et souvent des usines au Mexique ou aux États-Unis. Mais les constructeurs américains, dont les batteries viennent de Chine, vont aussi souffrir. Ajoutez à cela la construction des puces à Taïwan et en Corée du Sud et vous comprendrez pourquoi les produits électroniques vont être particulièrement touchés. L'Inde en exporte également, tout comme des bijoux et alimente l'industrie pharmaceutique américaine. Pour le Vietnam, c'est les machines, les textiles et les chaussures. Nike produit 50% de ses baskets sur place. Vous l'aurez compris, Marion, si les économies asiatiques accusent déjà le coup, les consommateurs américains risquent aussi de payer rapidement le prix fort.
La chronique à la une en Asie, signée Nicolas Rocca. On parlera encore de cette offensive lancée par Donald Trump qui dégaine ses droits de douane à tout va. Amis, ennemis, tout le monde y passe. On en parle dans une heure environ avec le grand invité international de RFI, Arnaud Pontus. Vous recevez Roland Lescure, député Ensemble pour la République des Français d'Amérique du Nord. Il est aussi vice-président de l'Assemblée nationale.
Oui, et il a été ministre de l'Industrie. C'est un dossier qu'il suit de près. L'heure de la guerre commerciale a donc sonné, les États-Unis contre le reste du monde. Donald Trump a annoncé ses droits de douane très lourds, en particulier contre les produits venus d'Asie, on le disait, et de l'Union européenne. La Chine se verra imposer une taxe de 34% sur ses produits. Pour l'Union européenne, ce sera donc 20%. La présidente de la Commission européenne explique que les Européens sont prêts à réagir, qu'ils travaillent déjà à un nouveau paquet de contre-mesures. La question politique, c'est bien maintenant de savoir que faire, quelle stratégie adopter, comment répliquer. Est-ce qu'il faut taper aussi fort ou laisser sa chance à une négociation? Faut-il que les entreprises européennes aillent s'implanter aux États-Unis pour éviter les taxes? Quelle chance de succès? L'Union européenne va-t-elle rester unie dans cette guerre? On pose toutes ces questions à Roland Lescure tout à l'heure.
A tout à l'heure, Arnaud. Entretien à partir de 6h20, temps universel. L'Europe n'a donc pas été épargnée par ces droits de douane américains. Les 27 espèrent quand même être rassurés au moins
Sur le dossier ukrainien, première visite aujourd'hui du secrétaire d'État américain sur le continent. Marco Rubio se rend au siège de l'OTAN. Washington s'est rapproché ces dernières semaines de Moscou au détriment de Kiev. Et face au désengagement américain, l'Europe met les bouchées doubles pour se réarmer. En France, la cadence s'accélère dans l'industrie de la défense. Illustration dans une usine d'obus et de canons à Bourges, dans le centre, avec Justine Fontaine.
Ce qui frappe d'abord en arrivant à l'usine, ce sont les travaux d'agrandissement en cours. Là, un hangar provisoire. Ici, un trou de plus de 2 mètres de profondeur sur plus de 100 mètres carrés pour faire place à de nouvelles machines.
Ici, on est dans la dernière canonnerie de France.
Gabriel Massonnier, porte-parole du groupe franco-allemand KNDS, leader européen de l'artillerie. 90% des munitions fabriquées par le groupe en France partent en Ukraine, mais aussi beaucoup de canons César qui sont faits en partie dans cette usine. Ici, l'économie de guerre est déjà d'actualité depuis le début de l'invasion russe.
On a quand même investi 600 millions d'euros en fonds propres depuis 3 ans pour tripler la capacité de production de canons César, pour tripler la capacité de production d'obus de 155 mm qui sont tirés par le canon César. On a recruté, on a acheté des machines, on est en train de pousser les murs. Donc on a cette expérience de l'économie de guerre.
Avant 2022, le groupe fabriquait 1 à 2 canons César par mois. Aujourd'hui, c'est 6 par mois. De longs tubes de métal sur plusieurs mètres de long qui sont usinés ici, pas au millimètre près, mais au micromètre près. Kevin travaille ici depuis 10 ans. Il a vu les effectifs passer de 120 à 200 personnes et la cadence s'accélérer. Nous ne pouvons pas donner son nom de famille pour des raisons de confidentialité.
Ça a doublé au niveau effectif dans la ligne depuis que je suis arrivé. Oui, avec l'augmentation, on a eu des demandes pour venir travailler les samedis sur volontariat aussi.
Sur sa ligne où sont fabriqués les tubes de futurs canons César, les salariés travaillent en 3-8, ce qui n'a pas toujours été le cas. Une dizaine de nouvelles embauches sont prévues cette année. Et l'entreprise, en parallèle, a demandé à ses fournisseurs, plus de 2000, d'accélérer la cadence, témoigne Laurent Monzauge, chef d'établissement KNDS à Bourges.
Tous nos fournisseurs, on les a accompagnés. Il ne s'agissait pas que KNDS soit en capacité de fabriquer 8 canons par mois et que nos fournisseurs restent à une capacité de 3 ou 4.
Dans certains cas, le groupe a avancé de la trésorerie. Il a aussi parfois dû changer de fournisseur. Aujourd'hui, ses carnets de commandes sont pleins pour 3 ans. Et avec la hausse annoncée des dépenses militaires en Europe, il pourrait encore se remplir davantage. Au total, en France, l'industrie de la défense emploie près de 200 000 personnes entre emplois directs et indirects. Justine Fontaine, de retour de Bourges, RFI.
Et une mauvaise nouvelle pour l'industrie de la défense en France. Elle cherchait à vendre des avions de chasse Rafale à la Colombie. Finalement, Bogota va opter pour des Gripen suédois pour remplacer sa vieille flotte de chasseurs israéliens.
RFI Matin.
Et on reste en France pour la question d'environnement. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour.
On parle ce matin de la police de l'environnement, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, cible encore une fois des agriculteurs. Florent, pourquoi tant d'attaques contre l'OFB ?
Eh bien, on va parler ce matin, Marion, d'une vidéo qui est presque passée inaperçue la semaine dernière. Et pourtant, c'est une simulation de meurtre. Le meurtre d'un agent de l'OFB par un agriculteur. Vidéo vite supprimée par ses auteurs, le syndicat des jeunes agriculteurs dans le département de la Manche. Mais le site Vaquita a pu en récupérer un extrait.
Tu veux la prendre, ma pelle dans ta gueule ?
Voilà, tu veux la prendre, la pelle dans ta gueule, dans cette mise en scène. L'agent de l'OFB finit enterré dans un champ. Les jeunes agriculteurs ont plaidé l'humour. C'est vrai que c'est super drôle.
Mmh. Après cette vidéo, la justice a ouvert une enquête, Florent, mais dans la classe politique, il y a eu très peu de condamnations.
C'est vrai, l'une des rares à avoir réagi, c'est la chef du parti, les écologistes, Marine Tondelier.
Ce qui est peut-être aussi choquant que ces appels au meurtre, c'est l'absence de réaction politique. On peut même dire qu'il y a une incitation politique à s'en prendre aux agents de l'OFB. Je pense qu'aucun corps de fonctionnaire de ce pays n'a été comme ça livré en pâture par un Premier ministre dans son discours de politique générale.
C'était en janvier dernier, dans son discours d'une heure et demie, François Bayrou avait consacré 2 minutes à la crise climatique avant de cibler la police de l'environnement.
Quand les inspecteurs de la biodiversité viennent avec une arme à la ceinture dans une ferme déjà mise à cran par la crise, c'est une humiliation. Et c'est donc une faute.
Une faute, oui. mais la sienne, le Premier ministre, sans trop populiste, oui c'est un concept, l'a finalement reconnu en envoyant une lettre d'excuse à l'OFB.
Mais pourquoi les agents de l'OFB sont armés ?
Tout simplement parce que ce sont des policiers. Explication de Concha Géraud, la directrice adjointe de l'OFB pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.
Il est tout à fait légitime que nous soyons armés face à des personnes également armées, notamment les chasseurs. C'est un métier qui peut être dangereux. Nous avons déjà eu des décès dans nos fonctions. Nous avons une stèle avec plus de 80 noms d'agents qui sont morts en service.
Pour en revenir à la vidéo, pourquoi son contenu violent a suscité une telle indifférence ?
Imaginez, Marion, la même vidéo, mais cette fois sur le meurtre d'un agent de la police nationale. Ça ferait la une des journaux, ça ferait des débats enflammés sur les chaînes d'infos. Écoutez ce qu'en dit Marine Tondelier, la chef des écologistes.
C'est comme si l'OFB, ce n'est pas une vraie police, parce qu'il y avait biodiversité dans le titre. Et donc, comme ça concerne l'environnement, ce n'est pas une autorité sérieuse. Et bien, nous, on conteste cela chez les écologistes. On protège tous les fonctionnaires.
Et ces fonctionnaires de l'OFB, ce ne sont d'ailleurs pas que des policiers, il n'y a pas que de la répression. Ils font tout un travail d'expertise, ils sont des vigies de la nature. L'OFB protège l'environnement et gère des réserves protégées.
Mais alors pourquoi l'OFB est régulièrement pointé par les syndicats d'agriculteurs ?
Peut-être parce que l'OFB est le bouc émissaire d'une contestation générale des normes environnementales. Concha Géraud de l'OFB.
C'est pas forcément envers nous, c'est plus envers la crise profonde qu'ils subissent. Nous sommes ciblés, mais les contrôles se passent, on va dire, pour 99,9% très très bien. Parce que justement, on les côtoie au quotidien, on se connaît, on se parle, on échange.
Voilà, parce qu'au fond, Marion, en protégeant la biodiversité, l'OFB rend service aux agriculteurs.
La question d'environnement, signée Florent Guignard, 7h26 à Paris. Dans quelques minutes, le retour de l'actualité africaine sur RFI. En attendant, on fait un tour dans notre playlist musicale et on écoute Rema avec ce titre « Baby, is it a crime ?»
Matching my seas, you know I'm a G. Shawty, I'm always keep it real. I know they for too much whining, they for too much whining. I see they be, I see shadow they enter. Oh yeah, make you call a bee. Oh yeah, show yourself to over savvy. Love is in the air, baby breathing. I available, baby anytime you need me, I dey available. Compatible, two of us dey compatible. Girl, I be bad boy, forget say I dey mellow. Ah, baby, I dey fold, baby take it slow. Baby, go down low, nobody has to know. Yeah, I know I play around, my man, I'll let you let you go. Baby, baby, too money. You say you matching my steez. You know I'm a G. Shawty, I'm always keep it real. I know they for too much whining. They for too much whining. I see they be, I see shadow they enter. Oh yeah, make you call a bee. Oh yeah, show yourself to over savvy. Love is in the air. Baby, breathing.
Le Nigérian Rema et ce titre Baby, Is It a Crime que vous retrouvez dans notre playlist du mois. Dans une minute, l'actualité africaine.
Priorité Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
la sexologue de l'émission Noël Caillard-Cy répond en direct à vos questions.
Demain,
émission Questions de femmes, comment gérer ses émotions ?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Les semences améliorées sont devenues pour les agriculteurs l'une des solutions pour s'adapter aux effets du dérèglement climatique. Quels sont ses avantages et ses contraintes? Nous en parlons avec des acteurs maliens de la chaîne de valeur de ces variétés améliorées.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.